J'imagine que comme moi, vous aimez le tourisme, vous aimez partir en vacances, vous aimez découvrir des nouveaux lieux. Mais est-ce que vous avez jamais pensé à du tourisme virtuel? Moi, j'avoue que je m'étais jamais posé la question. Je m'étais jamais dit que ça serait une possibilité. Bien sûr, j'ai vu des films de science-fiction où on envisage, mais pour moi, c'est très très loin de ma réalité. Et aujourd'hui, je reçois Savinien Caracostea, qui est un architecte diplômé de Harvard et quelqu'un qui est donc dans le physique, mais qui est aussi le cofondateur de la fondation Meta, qui n'a rien à voir avec Facebook. Ils avaient créé Meta avant que Facebook s'appelle Meta, et qui, lui, est convaincu de l'importance et de l'existence très proche d'un tourisme virtuel. Et avec Savinien, on va donc discuter de ce sujet. Est-ce que le tourisme virtuel, c'est une réalité? Est-ce que ça va devenir une réalité pour vous, pour moi? Est-ce que c'est envisageable? À quoi ça peut bien servir? Est-ce que vraiment ça remplace le tourisme? Est-ce que ça peut le remplacer? Est-ce que c'est plus écologique, pas plus écologique? Bref, des questions qu'on se pose, que moi je me pose en tout cas, et peut-être que vous vous posez sur le futur du tourisme. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Savinien. Comment tu te sens aujourd'hui?
Très bien, heureux d'être ici avec toi et avec vous.
On va parler de tourisme, de tourisme virtuel en particulier, qui est un concept pour moi aussi, mais qui est un sujet que les gens n'ont pas forcément en tête, mal en tête, ou à part avoir vu des films éventuellement. C'est quoi d'abord peut-être l'historique du tourisme? Comment ça a évolué ce tourisme? Parce qu'en fait, on prend ça aujourd'hui pour acquis, mais finalement, c'est assez récent quand on y pense. Les premiers congés payés, ça date du 20e siècle. Donc, j'imagine que le tourisme, c'est quelque chose qui s'est construit sur les dernières années, entre guillemets.
Oui, mais donc, disons, nous, on a retracé un peu les origines du tourisme de masse tel qu'on connaît aujourd'hui aux expositions universelles au milieu du 19e siècle à Londres, à Paris. Et c'était vraiment la première fois pour une grande majorité de la population qui pouvait voir, en allant à une exposition, tout un tas d'objets qui venaient directement de pays différents, de rencontrer des gens de ces pays, d'avoir des conversations avec eux, de toucher des tissus fabriqués en Asie ou en Amérique du Sud ou peu importe, enfin en Afrique, et de pouvoir voir un peu, avoir accès, avoir l'impression d'avoir vraiment voyagé dans des différents pays, différentes cultures. Dans un monde où avant vraiment il n'y avait pas vraiment même de livres, qui c'était encore un peu avant les débuts de la photographie, donc c'était vraiment très abstrait les informations qu'on avait avant, et là tout d'un coup ça devenait quelque chose de très réel. On pouvait voir des gens, parler avec eux, toucher des objets de là, entendre des dernières innovations, de l'artisanat et tout ça. Et donc depuis ça a vraiment évolué plutôt d'abord autour de guides, de cartes postales, de choses comme ça. Et même les origines du guide Michelin, c'était vraiment un peu à l'origine des premières voitures qui avaient des pneus Michelin. C'était de donner une raison aux gens d'utiliser leur voiture en allant à des restaurants qui étaient peut-être un peu plus loin de leur petit village. Ouais. Voilà. Donc c'était un prétexte encore pour faire les gens sortir de chez eux. Donc c'était déjà un peu surmonter la crainte de quitter son environnement connu. Mais sinon, après, c'était vraiment avec l'exposition universelle à New York, milieu des années 60, où il y avait le TWA Airport Terminal qui s'est construit. C'était vraiment un peu la modernité. Voilà, on a maintenant des beaux terminaux d'aéroport. Vous allez pouvoir prendre l'avion, aller où vous voulez. C'est une expérience assez luxueuse, finalement, très hospitalière. Et c'est à ce moment-là, vraiment, au milieu des années 60, qu'on a commencé à prendre l'avion un peu comme si c'était un voyage plutôt local. Enfin, c'était « je vais aller passer le week-end ici, je vais aller passer une semaine là ». C'est devenu très... très très pratique, très 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 bien vu d'aller un peu partout dans le monde. Et donc depuis ce moment-là, on a vu aussi que l'économie du tourisme a augmenté un peu partout dans le monde. Et ça a pris un tour quand même assez, assez déplaisant, parce que cette économie n'était pas de faire une communion avec les gens qui venaient visiter, mais c'était de créer des produits qui étaient fondamentalement juste des genres de petits souvenirs, même pas fabriqués dans le pays. C'était un peu une surenchère de vendre des choses, d'extraire de la valeur des gens qui venaient visiter, et de créer un genre d'expérience parallèle, un peu comme un amusement park, en gros, où on va, on se met dans un bus qui te raconte quelques petites histoires, qui t'amène dans quelques sites touristiques, et en gros, tu vas aller dans les grands magasins, tu vas aller dans les grands hôtels, des hôtels qui, de manière assez absurde, des grandes chaînes comme Marriott, qui te promettent un peu ta maison, peu importe où tu es dans le monde. Donc l'idée, c'est que tu vas de l'autre côté de la planète, tu restes dans un Marriott et tu te sens comme chez toi. Donc déjà, quelque chose de complètement absurde. Donc cette idée d'aller voyager, de découvrir le monde, petit à petit, est devenue quelque chose, une absurdité totale, où finalement tu voyages, mais tu es constamment dans un genre de bulle de choses artificielles créées pour te faire sentir confortable, peu importe où tu es, et que tu puisses acheter quelques trucs qui n'ont aucune véritable valeur ou lien avec l'endroit en tant que souvenir pour ramener chez toi. Donc une économie entière basée autour de donner une expérience complètement fausse aux gens qui venaient. Et donc il y a quand même une polarisation où beaucoup de gens sortent des bulles touristiques, font un effort pour aller découvrir un peu par eux-mêmes, tout un tas de guides qui essayent quand même d'ouvrir certaines portes vers de l'authenticité, vers des lieux qui ont quand même un certain lien important avec les populations locales et tout ça. Mais voilà un peu l'état où on est aujourd'hui. On a vu cet été, l'été 2023, pour la première fois, des articles quand même pratiquement de manière journalière sur le surtourisme qui était en train de complètement détruire certaines destinations. Et ça se relie quand même à des choses assez improbables. Une série Netflix qui a lieu dans un petit village en Normandie. Et le lendemain, tu as des dizaines de milliers de personnes qui veulent aller dans ce petit village en Normandie. Ouais. Et le village n'est pas du tout prêt. Et ça cause des dégâts assez phénoménaux. Parce que beaucoup d'endroits ne sont pas prêts du jour au lendemain à recevoir des gens qui viennent dans des grands bus et qui veulent rester quelque part, manger quelque part, prendre des photos, aller dans les mêmes sites où se sont passées les scènes de cette série. Donc,
t'es allé un peu vite sur l'avion, parce qu'en fait, dans les années 60, l'avion, c'était... Et même, moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, donc j'imagine dans les années 80, c'était quand même un truc un peu de luxe. C'était pas donné à tout le monde, et aujourd'hui encore... c'est important de rappeler qu'il n'y a que 10% des gens sur la planète qui ont pris l'avion.
Exactement.
Parce qu'en fait, majoritairement, 90% des gens, ils n'ont jamais pris l'avion, ils ne le prendront jamais. Et donc, on se parle d'une frange de gens qui est limitée, mais qui s'est élargie en particulier avec tout ce qu'on appelle le low cost. Et ça, en fait, j'aimerais bien avoir ton point de vue, parce que moi, j'ai un point de vue assez... partagé sur ce sujet. Parce que d'un côté, je me dis, c'est génial de permettre à tout le monde de pouvoir accéder à, ou en tout cas, ça a été, parce que maintenant, écologiquement, clairement, c'est pas génial du tout, mais enfin, en tout cas, tu peux te dire, ça a été génial de permettre aux personnes de plus ou moins tout type de revenus, mais en tout cas, en Occident, de pouvoir voyager, de prendre l'avion, de voir le monde, entre guillemets. Ce que tu viens de décrire, c'est qu'ils voient pas le monde, mais ça, c'est, voilà. Et d'un autre côté, c'est un désastre écologique, c'est un désastre culturel, ça peut être un désastre économique. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, parce que, tu vois, moi, je suis un peu partagé sur... Enfin, pas trop partagé, parce que je me dis que clairement, finalement, écologiquement, ça n'a aucun sens. Et en même temps, te dire, en fait, c'est en allant découvrir l'autre que tu fais baisser le racisme, c'est en allant découvrir l'autre que tu t'enrichis, etc. etc.
Oui, je pense que pour des questions comme ça, moi, j'adore faire un peu des parallèles avec d'autres médias, d'autres milieux. Et si on regarde, par exemple, rien que le cinéma, avant, on faisait des films qui étaient quand même produits pour être joués dans des salles. Il y avait beaucoup plus d'auteurs, disons, qui avaient des voix de créer un film qui, eux, voulaient raconter une histoire. Et il y avait une certaine cérémonie à prendre du temps pour aller au cinéma, pour aller regarder ce film. Et souvent, après aller voir un film au cinéma avec des amis ou de la famille, on avait une conversation un peu autour du film. Enfin, c'était un peu une cérémonie autour de ce contenu. Et avec la télé et maintenant tous ces services de streaming, le contenu est beaucoup plus produit en masse, sans trop de considération, plutôt en tant que marketing. Tiens, les gens aiment bien regarder ce type de contenu, donc on va produire plus de contenu comme ça. Et on va essayer, en gros, de maximiser le nombre d'heures que passent les gens à regarder Netflix ou quoi que ce soit. Donc, d'un certain côté, ces systèmes de streaming donnent accès aux films merveilleux qui ont été faits depuis les origines du cinéma. Génial, moi en tant que cinéphile, j'ai accès à tous ces films, je peux les regarder. Formidable. Mais en même temps, le vrai public de tout ça, c'est des gens qui vont quand même regarder ce qu'on leur propose, ils vont allumer la télé et il y aura plein de suggestions et ils vont passer du temps à regarder tout ce qu'on leur propose sans nécessairement essayer de se faire une éducation sur pourquoi est-ce qu'on me propose ces choses-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on ne me propose pas. Donc je pense que c'est exactement la même chose pour le tourisme. Si on te propose à 60 euros un voyage n'importe où, bah, tu vas voyager n'importe où sans trop te préparer, sans trop prendre ce voyage, donner de valeur à ce voyage. Ça va être quelque chose pour aller te distraire, pour aller changer d'atmosphère, mais tu ne vas pas vraiment te renseigner trop sur où tu vas, tu ne vas pas vraiment essayer de bien comprendre, d'appliquer. Donc plus on ouvre ces expériences à un grand public, à un prix de plus en plus abordable, évidemment, on donne accès à tout le monde, mais ce n'est pas pour autant qu'on va créer plus de curiosité, plus de partage. On va juste créer de l'extraction de valeur où tu vas aller passer un week-end quelque part. Et en tant que tourisme qui arrive comme ça, toute ton expérience va être que aller dans des restos touristiques, des lieux touristiques, acheter des choses touristiques et tu auras été à un Disneyland, enfin, peu importe, tu aurais pu regarder une série Netflix sur ce lieu, ça aurait été la même chose. Enfin, tu aurais eu la même expérience.
Tu n'aurais pas pu mettre les photos des monuments avec ta tête dessus.
Peut-être. Ah, mais tu peux. je suis sûr que c'est quelque chose qui sera fait très bientôt.
Hein. Ben oui, on va en parler.
Déjà, voilà.
On va en parler. Donc, toi, pour toi, ce tourisme de masse, parce que vraiment, tourisme de masse occidental, mais tourisme de masse malgré tout. Il est destructeur de valeur, finalement, destructeur de l'écosystème, parce que bon, souvent les gens prennent l'avion ou à minima la voiture, et parfois la voiture pour aller à l'aéroport et l'avion pour aller dans la destination. Donc il est destructeur de l'écosystème et il est destructeur aussi au niveau local, parce que on détruit souvent de l'artisanat, par exemple, pour aller construire des chaînes d'hôtels, finalement.
Et on a vu aussi avec Airbnb, enfin dans tout un tas de villes, Barcelone de manière très notable, que toutes les régions centrales un peu historiques, un peu belles, se sont très rapidement converties en Airbnb et les populations locales ne peuvent même plus habiter dans leur propre ville parce que la ville entière est transformée en lieu pour créer une expérience authentique, entre guillemets, à des touristes. Mais encore une fois, Airbnb a commencé avec des très bonnes intentions. Au lieu d'aller à un hôtel, je vais aller habiter chez un local qui va voir un peu les livres qu'il a, voir un peu ses intérieurs, et il va me rencontrer, tout ça. Enfin, il va me donner un peu une perspective sur la ville. Et ça, c'est vraiment incroyable comme idée. Mais une fois que Les gens commencent à voir des Airbnb comme des investissements où ils vont créer un Airbnb de toutes pièces, un appartement qu'ils louent et qu'ils vont essayer de mettre quelques posters que tout le monde adore, créer un lieu plus pour le touriste que pour eux-mêmes où ils habiteraient eux-mêmes. Ça devient une performance, ça devient un genre de parc d'attractions. Et ça enlève la prémisse même d'Airbnb, qui est d'avoir une expérience plus authentique en allant vivre chez quelqu'un que d'aller à un hôtel qui finalement fait la même chose.
Oui, précisément. Et comment toi tu vois évoluer le tourisme ? C'est-à-dire, moi, je de ma petite fenêtre, mais dans ma bulle, parce que j'ai bien conscience d'être dans une bulle, je vois le développement du tourisme local, en vélo, je vois le retour du voyage en tant que tel comme partie intégrante des vacances, c'est-à-dire qu'on a beaucoup eu cette idée, et bon, je pense que dans la majorité des personnes qui nous écoutent, c'est quand même encore ça, c'est-à-dire le voyage est une friction finalement, que tu essayes de réduire au maximum, c'est-à-dire qu'en fait le voyage ne fait pas partie de l'expérience. Le voyage, c'est le truc pénible que tu dois faire pour te rendre à x, y endroit. Et alors qu'avant, les vacances, enfin ce qu'on appelait les voyages, c'était le voyage en l'occurrence, c'est-à-dire le fait de prendre le train, de prendre, j'en sais rien, une voiture, une motocyclette, ce que tu veux, enfin le moyen de transport que tu veux, pour te rendre dans l'endroit. Et en fait, sur le chemin, parce que c'était aussi à vitesse d'homme, plus ou moins, bah du coup, tu avais une expérience. Aujourd'hui, évidemment, l'avion a un peu plus de 1000 km/h quand tu fais du transatlantique, bah t'as pas d'expérience si ce n'est l'expérience pénible de l'avion.
Oui.
Et voilà.
Mais ça, on voit très bien avec le TWA Terminal qui a été construit, voilà, pour l'Expo Universelle et pour, en gros, montrer un peu l'avenir d'un monde super interconnecté par l'avion. Où aujourd'hui, de manière ironique, depuis des dizaines d'années, ce terminal n'était plus accessible. Enfin, il ne pouvait plus être utilisé parce qu'il était conçu pour un temps où beaucoup moins de gens voyageaient. Les contraintes de sécurité, tout ça ne correspondent plus à cette conception. Et il y a quelques années, il s'est transformé en hôtel. Donc aujourd'hui, on peut retourner et voir ce terminal. Et on voit que ce terminal a été conçu vraiment comme un endroit très hospitalier, fondamentalement, où on voulait montrer que le voyage par avion, c'était quand même comme un nouveau style de train, très, très futuriste, mais en même temps très confortable, très agréable. Et à chaque fois, plus ces infrastructures deviennent utilisées de manière exponentielle, enfin, je pense que j'ai lu une statistique, à tout moment, il y a 1 million de personnes dans des avions. Donc,
en l'air.
En l'air, voilà. Donc ça, on ne peut plus considérer, ça devient une infrastructure, ça ne devient pas une partie d'un voyage. Et donc oui, il y a un peu un contre-temps à ça, et à ça, et à ce que je disais tout à l'heure, qui est d'expérience. On va de l'autre côté du monde, mais en même temps, on va se retrouver avec les mêmes magasins, les mêmes restaurants, les mêmes chaînes. Donc, il y a pour une certaine population qui voit un peu ça, qui se dit, mais pourquoi est-ce que j'irais passer une semaine là-bas quand finalement, si je prends un vélo à 2 heures de chez moi, il y a des choses tout aussi intéressantes, finalement, peut-être même plus intéressantes. Et donc, je pense qu'il y a un peu, surtout post-Covid, où on a été quand même, pendant un moment, contraint à se dire, bon, mais où est-ce que je peux passer quelques jours sans prendre l'avion, sans prendre le train, etc. Donc, je pense qu'il y a un nouvel intérêt au tourisme très local, qui est finalement, allons à une ferme cueillir des pommes, ou allons à une ferme parler avec des locaux, restons dans un petit chalet au milieu de la nature, au lieu d'aller finalement à une autre grande ville qui a les mêmes choses à nous offrir. Et rien que dans les 10 dernières années, énormément de marques, et que ce soit des marques de vêtements, de pâtissiers, de quoi que ce soit, dès qu'ils ont un peu de succès chez eux, vont commencer à ouvrir des boutiques partout. Et donc, encore une fois, si ton idée d'aller à Paris, c'était de pouvoir manger ces pâtisseries et d'avoir accès à ces belles marques où tu allais faire ton shopping et tout ça, si elles s'ouvrent chez toi, mais alors aller à Paris, ça ne sert plus à rien, enfin, de ce point de vue. Donc, il y a tout un tas de choses qui enlèvent finalement la valeur de voyager pour avoir une expérience qui finalement est accessible de partout.
Et pour revenir sur ce que tu disais sur Airbnb, qui est très vrai, moi j'étais vraiment dans les tout premiers usagers d'Airbnb. Je suis allé interviewer les fondateurs d'Airbnb en 2009, je crois, en 2010. J'avais adoré les rencontrer, je trouvais que l'idée était géniale et puis ça s'est complètement fourvoyé et je pense pas que ça soit leur faute à eux techniquement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est deux choses. Airbnb et Pinterest, ça a aussi fait quelque chose que on pouvait ne pas s'attendre à avoir, c'est une uniformisation des maisons. C'est-à-dire, à part peut-être au Japon ou dans certaines régions, quand tu vas dans les appartements aujourd'hui, quelles que soient les villes, à New York, à Paris, à Londres, au Portugal, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en fait, en gros, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes genres de déco, c'est tout pareil, en fait. Il n'y a plus de localisation, finalement.
Ouais. Ben c'est une esthétique Airbnb qui est d'endroit un peu design, mais en même temps pas trop chic non plus, assez jeune. Tu veux construire un lieu qui est simultanément un peu soigné, mais en même temps pas trop soigné. Et fondamentalement, tous les meubles dans la majorité des Airbnb, j'imagine, viennent d'IKEA. Donc, encore une fois, on essaye de masquer ça avec des couleurs, quelques pièces d'accent, quelques plantes, quelques trucs comme ça. Mais c'est une esthétique. Je pense Instagram a été aussi derrière cette esthétique, un peu de choses un peu rondes, un peu coloriées, un peu rigolotes, des couleurs pastel, des choses comme ça, un peu avec des influenceurs qui qui te montrent leurs propres intérieurs, qui sont sponsorisés par des marques. Voilà, donc c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Mais c'est sûr que ça fait partie d'une des choses que je trouve que le voyage tel qu'on le connaît aujourd'hui uniformise énormément les destinations. Et c'est un vrai problème.
Et alors, qu'est-ce qu'on devrait aller chercher dans le voyage? En fait, ce que tu disais au tout début, c'est-à-dire dans les expositions universelles, on allait chercher de toucher des nouveaux tissus, de parler avec des locaux, entre guillemets, et pas de manière... Alors, bien sûr, à l'époque, maintenant, on regarderait ça comme une sorte de zoo, j'imagine, mais à l'époque, en tout cas, c'était la seule ouverture qu'on avait sur l'extérieur. Et en fait, c'était déjà faire preuve de grande ouverture, finalement, d'aller dans ces expositions. Qu'est-ce que les gens devraient... Qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce qu'ils cherchent des choses... Mais finalement, ils font autre chose. En général, ils cherchent à se reposer, ils cherchent à s'ouvrir, etc. Finalement, en fait, moi, j'avais eu cette expérience il y a très longtemps, mais avec une amie en Thaïlande où, en fait, elle en avait marre de manger local. Et elle avait voulu, je ne sais plus ce que c'était un burger ou une pizza ou je ne sais pas. Et moi, j'avais dit, non, enfin, on est à Thaïlande, on ne va pas aller manger une pizza, c'est complètement con, en fait. Le pad thaï, c'est super. Tu vois, cette volonté de finalement, c'est bien la différence, mais pas trop. Donc, qu'est-ce que les gens devraient aller chercher quand ils voyagent?
C'est une question, je pense, très intéressante. Et ça se relie vraiment à chaque personne. C'est un peu, il faut se poser soi-même la question, qu'est-ce que je recherche en allant là-bas? Et si tu ne sais pas, alors peut-être que ce n'est pas le moment d'y aller. Donc, il n'y a pas de réponse universelle, un peu. C'est un peu à chaque personne de se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller en Thaïlande? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là-bas? Mais de ma propre expérience, quand je voyage, je veux aller dans des endroits qui sont créés par un peu ce qu'on appelle ici les cultural drivers. Des gens qui sont de cet endroit, qui chaque ville de nos jours, je pense, a une culture propre à elle-même, même si elle est très influencée par les autres endroits. En tant que New-Yorkais, j'arrive très rapidement à voir si une expérience est réelle ou si elle est créée pour prendre des belles photos sur Instagram, pour des gens qui arrivent à comprendre si c'est un endroit fait par des New-Yorkais, pour des New-Yorkais, et qu'il y a une scène de musique derrière locale, une scène de mode derrière locale. Si tu rentres et tu vois des gens habillés d'une certaine manière, tu sais que ça attire les gens de ce quartier. Mais même, parlons un peu de voyage, ce qui est intéressant, c'est même sans voyager, il y a des gens qui sont des voyageurs et des gens qui ne sont pas des voyageurs. Donc, je connais des gens à New York qui, disons, font un peu la même chose tous les jours, ne quittent pas certains quartiers, n'ont pas vraiment une curiosité d'aller voir certaines expositions ou parler à certaines personnes. Enfin, tu peux être un voyageur dans ta propre ville, dans ton propre environnement. Et si chez toi, t'as pas une certaine curiosité d'aller découvrir certaines choses, de tester des nouveaux endroits qui s'ouvrent, de rencontrer des gens assez divers, ben quand tu voyageras, t'auras pas non plus cette même curiosité. Donc, après, je dis pas que ceux qui ont pas une curiosité ne devraient pas voyager, que bien tu sûr. Vois, c'est... Chaque personne a ses propres, les propres choses qu'il recherche. Et je pense que la grande erreur, c'est de faire les choses parce qu'elles sont disponibles. De regarder une série Netflix parce qu'on te l'a recommandée sur Netflix et de ne pas trop réfléchir à qu'est-ce que j'essaie, enfin, qu'est-ce que cette série, en quoi est-ce qu'elle va m'ouvrir les yeux sur quelque chose ou me rendre plus... plus heureux en connaissant quelque chose de nouveau, enfin, sans pour autant dire qu'il n'y a pas des séries que tu peux juste regarder parce qu'elles sont rigolotes. Détendre, hein. Voilà. mais si ça devient juste quelque chose où on passe énormément de temps à faire quelque chose qu'on ne sait pas trop pourquoi on le fait, voilà. Enfin, donc c'est un peu ça, le voyage, c'est une extension un peu de notre découverte envers le monde. Et si on ne veut pas découvrir ce qui est devant notre... propre le seuil de notre porte, ouais. On peut voyager, mais ça devient aussi un peu de l'escapism, ouais. Un peu de se changer l'atmosphère de nos problèmes en allant quelque part d'autre.
Ça fait penser, enfin pour moi, la quintessence de ça, d'une certaine manière, mais dans ma tête, hein, je ne sais pas si c'est le cas, c'est un peu Punta Cana, où les gens ils y vont juste pour être sur une plage aux Caraïbes, qui est très chouette par ailleurs, mais avec beaucoup de misère autour, parce qu'il y a Haïti qui est juste évidemment sur la même île. Et surtout, enfin, si c'est juste pour aller à la plage, tu peux rester. Enfin, je veux dire, on a des plages en France.
Ouais.
Il n'y a pas besoin d'être jusqu'à Punta Cana. Alors, bien sûr, en plein hiver, tu l'as plus difficilement en Europe à avoir du soleil, mais.
Ben, ça fait partie d'une autre couche un peu de tout ça, qui est encore cet effet un peu réseaux sociaux 2.0. qui est que le voyage, c'est l'identité. Et donc, si tu fais partie d'un groupe de personnes qui passent leur été à une certaine plage ou qui vont aller à une certaine ville en Italie ou en Grèce ou quoi que ce soit, y a une grosse pression sur toi de faire un peu la même chose et de poster sur Instagram que tu as été ici, que tu as été là, que tu passes tes vacances comme ça, que c'est un peu montrer que tu as les ressources de faire ça, que tu as le goût de savoir qu'il faut aller ici ou aller là. Donc, c'est un peu une économie un peu basée autour de pression sociale, de correspondre à ta communauté, qui peut être une communauté assez artificielle.
En tout cas, superficielle.
Voilà. Donc, si tu ne vas pas passer ton été là-bas, sur cette plage, à manger à ce restaurant, à aller à cet hôtel, à t'acheter ce sac à main... tu ne fais pas partie de notre communauté et donc c'est une communauté assez artificielle parce qu'elle est créée à partir de publicités, d'influenceurs qui sont payés par des marques pour définir un peu quels sont les codes de cette communauté. Et donc ça fait partie d'un grand type de voyage en ce moment qui est un voyage uniquement de surface, de montrer à ton public... que tu es capable de correspondre au code de ta communauté. Et donc, du coup, on se retrouve avec des situations complètement absurdes où il y a un endroit où tout le monde se prend en photo. Et quand tu vas à cet endroit, en fait, il y a une queue de gens qui attendent leur tour pour se prendre en photo là-bas.
Au même endroit, ouais.
Et donc, c'est complètement à l'encontre d'un endroit relaxant où tu vas aller te détendre. Non, tu vas aller là-bas pour travailler à créer, à correspondre exactement à ce qu'on attend de toi. Donc, c'est aussi une couche un peu de l'absurdité du tourisme actuel qui est très manipulé pour créer des fils conducteurs. Et si on suit pas ces fils conducteurs, ben on n'est pas dans les codes de cette communauté, une communauté qui devient de plus en plus internationale, de plus en plus esthétique, comme on disait, tous les Airbnb se ressemblent, tous les influenceurs aussi.
Complètement, complètement. Et cette image que tu donnes du tourisme, elle est assez réaliste et en même temps elle est assez triste parce qu'effectivement on voyage pour s'intégrer de manière sociale, d'une manière ou d'une autre. Pour toi, comment va évoluer le tourisme ? En fait, on a touché deux mots sur le tourisme hyper local, ou en tout cas, le voyage refait partie du voyage. Enfin, je sais pas, c'est bizarre comme phrase d'ailleurs, mais où le voyage fait partie intégrante des vacances. Et est-ce que tu as l'impression que ce que les gens recherchent est en train d'évoluer vers d'autres choses, justement, des choses qui sont réellement plus authentique, où du lien va se créer et pas simplement une sorte de faux lien avec... Ouais.
Ça a beaucoup à voir avec la technologie et à mon avis il y a une certaine polarisation qui se passe dans tous les milieux quand la technologie commence à s'en mêler. Donc on regarde la musique par exemple, où il n'y a pas si longtemps que ça, la seule manière à part la radio d'accéder à la musique, c'était d'aller acheter un CD. Et que tu sois un grand audiophile ou quelqu'un qui écoutait de la musique de manière assez
sporadique.
On allait acheter des CD de la même manière et tout le monde achetait des CD de la même manière parce que c'est la seule manière d'acheter de la musique. Et avec l'arrivée du streaming, tout d'un coup, toute la musique est disponible pour tout le monde. Mais d'un autre côté, on commence à voir des gens qui achètent des vinyles qui redeviennent très, très à la mode et très, qui montrent qu'il y a quand même toute une catégorie de gens qui ont quand même envie de retourner à une conception d'écouter de la musique qui est plus, je vais écouter cet album et j'ai pas envie qu'il y ait des publicités en plein milieu ou j'ai pas envie qu'on commence à me changer d'album ou me montrer une playlist ou quoi que ce soit. Je veux mettre cet album sur mon tourne-disque, moi-même poser l'aiguille dessus et contrôler complètement mon expérience de comment je vais écouter cette chose. Pareil avec les magazines. Il n'y a pas si longtemps, les seuls magazines qu'on pouvait trouver, c'était des magazines, en gros, qui étaient remplis de publicité, imprimés sur du papier complètement pas très considéré. Et voilà, et maintenant, la majorité du contenu de ces magazines, on les trouve facilement en ligne. Donc, il n'y a pas besoin d'acheter un magazine physique qui va rester sur ta table, qui est en gros que des publicités. Mais il y a un nouveau type de magazine qui est beaucoup plus indépendant, avec des papiers beaucoup plus beaux, une belle impression du contenu qui est plus considéré, qui est pas fait pour expirer au bout d'un mois, mais qui est quelque chose que finalement tu veux garder parce que c'est un sujet qui t'intéresse, tu vas le mettre sur ton étagère. Et donc je pense que c'est un peu pareil avec le voyage. Le voyage est devenu un média. On peut parler aussi de la mode avec le fast fashion où tu peux soit décider d'acheter des centaines de vêtements qui vont te durer quelques semaines, ou bien tu vas dépenser le même argent pour t'acheter moins de choses, mais qui vont avoir plus un lien avec toi. Et le voyage, je pense que ça va se passer un peu de la même manière. Il y aura une polarisation où, avec l'arrivée de toutes ces technologies de réalité virtuelle, Apple qui sort son casque de spatial computing dans quelques mois, cette idée de contenu immersif va complètement satisfaire les désirs de voyage d'une grande majorité de gens qui, finalement, si tu veux aller à Paris, tu peux te mettre le casque et tu peux facilement voir tous les sites touristiques. Déjà aujourd'hui, à mon avis, il y a des vidéos 360 sur YouTube, que tu peux déjà avoir l'expérience d'être dans ces endroits. Cette expérience va ne faire que s'améliorer dans les années à venir. Et il y aura aussi toute une couche de connexion que tu peux faire, comme tu peux aujourd'hui avec Instagram. Si tu t'intéresses un peu à certaines communautés, tu peux aller trouver les comptes des gens qui sont dans ces villes. Si tu t'intéresses au vin, tu peux trouver les vignerons et les boutiques de vin qui s'intéressent à ça. Si tu t'intéresses à la musique, tu vas trouver les DJ locaux. Si tu t'intéresses à la céramique, tu vas trouver les céramistes locaux. Et tu peux déjà commencer des conversations avec eux sur Instagram, mais avec la vidéo 360, toute cette expérience plus immersive, tu pourras avoir des liens encore plus, disons, humains avec ces différentes communautés à travers le monde. Donc, il y aura la polarisation où beaucoup de choses seront accessibles très facilement par tout le monde qui s'y intéresse. Et d'autre part, tu auras la polarisation de gens qui vont vraiment vouloir aller voyager et du coup qui vont y aller avec beaucoup plus d'intention, beaucoup plus de préparation, beaucoup plus de désir de vraiment s'immerger dans une nouvelle culture, hein, de trouver, au lieu d'aller à un Airbnb où tu vas juste rester chez quelqu'un que tu connais pas, tu vas vraiment vouloir connaître les gens chez qui tu vas et retourner vers une hospitalité qui fondamentalement est un peu le vinyle de l'hospitalité, mmh. qui est quelque chose où vraiment tu veux avoir un hôte qui te reçoit, qui t'ouvre les yeux sur certaines choses, qui te donne du contexte, qui te dirige vers les endroits où tu devrais aller. Donc c'est un peu ça ce que je vois se passer.
Mais quand tu... Enfin, on va rentrer dans le détail du casque parce que ça m'intéresse, mais est-ce que c'est pas cette vision-là, est-ce que c'est pas oublié, mais peut-être que c'est ma vision et que c'est pas la vision en général. De toute façon, je suis clairement pas tout le monde, donc voilà. Mais il y a une émotion à aller dans un endroit, il y a des odeurs, il y a... tu vois, le fait de voir avec ses yeux, de sentir, de ressentir, en fait, tout simplement, le lieu. Est-ce que ça, c'est pas une partie qui est quand même extrêmement importante, ou alors c'est juste moi qui ai besoin de ça, et finalement, pour la majorité des gens, finalement, ils montent dans le bus et puis ils vont voir XY lieu touristique, et puis ils s'en vont et puis ils se plaignent de l'odeur, justement, parce que finalement, c'est pas si sympa parce que c'est pas comme chez eux.
Ben, c'est un peu les deux, parce que quand on dit polarisation, on ne dit pas que tout le monde va faire que du voyage virtuel. Mais au lieu de prendre l'avion 5-6 fois par an pour aller passer quelques jours dans des endroits où finalement ils n'ont pas tellement de choses à faire là-bas, peut-être que la plupart du temps, s'ils sont intéressés à une certaine destination, tu peux déjà aller la regarder et voir si ça t'intéresse d'y aller. Et si tu as une expérience virtuelle qui t'intéresse vraiment, tiens, c'est vraiment un endroit où il y a une communauté qui m'intéresse énormément, bah, peut-être que je vais y aller. Donc, ça réduit un peu, peut-être sur 5 voyages virtuels que tu auras fait, tu n'en auras que un ou deux qui vont vraiment t'intéresser à dire « Tiens, je veux découvrir plus cet endroit. » Pareil que si tu achètes des vinyles, j'imagine qu'avant d'acheter le vinyle, tu as quand même écouté l'album sur Spotify ou ailleurs et qui t'a vraiment plu et que tu dis « Tiens, ça, c'est vraiment quelque chose qui te... J'ai vraiment envie d'avoir ça sur mon étagère. » Donc, peut-être que le voyage virtuel devient un peu une sorte de découverte, un peu très accessible, où au lieu d'aller regarder une série Netflix, tu vas aller te balader dans une ville ou dans un endroit, parler à des locaux, te renseigner sur certaines choses. Et je suis sûr qu'il y aura tout un tas de contenu autour de tout ça qui va se créer également. Et ça te permet de découvrir des endroits de manière beaucoup plus facile sans avoir un impact négatif. Je peux aller sur beaucoup de tangentes, mais toute cette idée de cinéma-réalité qu'il y avait dans le milieu du XXe siècle avec les gens qui voulaient faire des documentaires, qui s'aperçoivent très rapidement, genre Louis Malle et tout ça, que quand tu vas en Inde en tant qu'occidental et que tu poses une caméra quelque part, tu vois pas vraiment la vie telle qu'elle est. Tu vois la vie, c'est plutôt eux qui te regardent et tu changes complètement la réaction de l'endroit par ta propre présence, plutôt que de cette manière finalement assez détachée où tu peux avoir une expérience, découvrir un endroit sans pour autant avoir un impact sur cet endroit et devenir le touriste qui crée une économie touristique autour de toi-même qui fondamentalement change l'expérience même de l'endroit où tu vas. Avec ces expériences virtuelles, tu peux voir certains endroits qui n'existent même plus. Tu peux aller vraiment plus dans la profondeur d'une culture, de voir certains monuments qui ont été détruits ou certaines couches de la culture que même en allant là-bas, tu n'aurais pas accès à ce genre de contenu. Donc, il y a un peu un double tranchant où l'expérience virtuelle, en effet, tu n'auras pas les odeurs, tu n'auras pas toutes ces choses-là. Mais en même temps, si c'est bien fait, tu auras peut-être beaucoup plus de profondeur au type d'interaction que tu pourras avoir.
Et bien sûr, moi, j'ai toujours cette question un peu écologique dans la tête. Je me dis, bon, ben, oui. Et en plus, si les gens ne prennent pas l'avion, il y a plein d'impacts, il y a plein d'externalités négatives au tourisme. Il y a un peu d'externalités positives, mais je ne suis même pas certain que ce soit très positif d'économies locales qui sont dynamisées par le tourisme. Il y a plein de pays. Bon, la France en fait partie. Hein. Après tout, la France, c'est un des plus gros pays touristiques au monde. Donc, ça bénéficie, je veux dire, à une énergie locale, des hôtels, beaucoup d'Airbnb, des restaurants, des boutiques, etc. Mais il y a des endroits, je pense, entre autres à Bali ou la République dominicaine, où ça détruit quasiment, parce qu'en fait, il y a tellement d'influx d'argent de cette manière-là que du coup, il n'y a plus trop d'intérêt à construire des vrais, enfin, je ne sais pas si c'est des vrais, je ne sais pas si le terme est le bon, mais business locaux, en fait.
Oui. Donc, il y a quelques années, j'ai commencé avec quelques partenaires qui sont vraiment dans le monde de l'hospitalité. On a commencé une non-profit qui s'appelle la Fondation Meta, la Meta Foundation. Et le but de cette fondation, c'est vraiment de commencer à voir quelles sont les couches que vont devoir avoir ces expériences virtuelles pour constituer vraiment une expérience de voyage. Que ce ne soit pas juste un jeu vidéo qui bénéficie la personne qui a créé le jeu vidéo ou la plateforme qui va prendre tous les profits de ton expérience. Donc l'idée avec le voyage virtuel, c'est aussi de créer des vrais liens avec des vraies personnes.
Alors comment tu fais ça?
C'est là où il y a toutes ces nouvelles technologies. On a parlé il y a quelques années beaucoup de la Web3, de la décentralisation. Évidemment, la majorité de ce qu'on a vu il y a quelques années, c'était des NFT qui étaient assez opportunistes finalement, qui n'avaient pas vraiment un
c'est
lien.
C'est quoi des NFT?
Les non-fungible tokens.
Ah, NFT, pardon, excuse-moi, j'avais pas
compris. Donc, il y a déjà beaucoup de technologie qui est en train de se développer, qui est un peu l'infrastructure de la décentralisation. Et avec toutes ces technologies, même si tu as un casque, le casque Apple va coûter énormément d'argent quand il sort, mais d'ici quelques années, il y aura une version beaucoup plus accessible. Et donc, tu disais tout à l'heure qu'il y a 10% de la population qui prend l'avion. Ces casques-là, on peut imaginer que dans pas très longtemps, il y aura quand même beaucoup de gens qui auront accès, même si ce n'est pas à leur propre casque, mais à un casque, que ce soit dans une école, que ce soit dans une librairie, que ce soit chez un voisin ou quoi que ce soit, et qui auront accès à, du coup, tout un tas d'expériences qui, eux, pour la première fois, ils pourront voir Paris sans avoir à prendre l'avion là-bas. Et donc, ça ouvre la porte à ça, mais ça ouvre la porte aussi de l'autre côté. Ça va dans les deux sens. Ce qui était intéressant avec ces nouvelles technologies, le casque Apple et tout ça qui vont sortir, c'est que ce n'est pas seulement un outil de consommation, mais c'est un outil de connexion. Où si tu as ce casque sur ton visage, tu peux parler à quelqu'un d'autre qui a ce casque sur son visage, même si c'est à travers aujourd'hui un type d'avatar. Mais on peut imaginer que d'ici quelques années, ça va devenir de plus en plus réaliste. Et que là, on pourrait vraiment avoir ce podcast au lieu d'être assis autour d'une même table de deux côtés de la planète et qu'on aurait un peu la même expérience, même si c'est pas 100% authentique, on serait quand même dans un bel endroit, on se verrait comment on bouge, on verrait comment nos expressions. Donc c'est un outil qui va dans les deux sens. C'est pas une télé qu'on regarde, c'est quelque chose qui nous permet de communiquer. Donc si les gens ont accès à cette technologie, tu pourras vraiment communiquer avec ta communauté. Si tu es un céramiste au Portugal, tu pourras parler avec tes clients au Japon, aux Amériques, en Europe, partout où tu veux, et leur parler sur ton processus, leur offrir un cours de céramique que tu pourras monétiser. Donc, c'est l'idée d'ouvrir cette économie à des gens qui sont vraiment intéressés à ce que tu fais et pas juste à des touristes qui ont choisi Lisbonne par rapport à une grande liste de destinations juste parce qu'ils ont vu un poster dans la rue ou quelque chose comme ça. Mais ça va être des gens qui vont venir vers toi parce qu'ils sont intéressés par ton travail.
Mais alors attends, du coup, quand tu dis c'est une vraie conversation, mais ça suppose que le céramiste ou la céramiste en question soit disponible en ligne. Parce qu'en fait, comment, admettons, je suis japonais, je veux aller visiter la France et j'aimerais, j'en sais rien, aller visiter les boulangeries Poilane, par exemple. Bien sûr que je peux avoir une vidéo enregistrée de Apollonia qui m'explique Poilane ou pourquoi pas une boulangère ou un boulanger qui m'explique comment il fait du pain, les croissants, etc., etc. Mais c'est pas une interaction réelle dans le sens où je suis quand même en train de visionner quelque chose. Comment tu crées une interaction suffisamment crédible,
oui,
pour que tu aies vraiment la sensation de parler avec cette, enfin, ou que tu parles vraiment avec cette personne en face de toi?
Ben, ça va faire partie de l'économie comme ça. Donc, tu auras une version qui est la version préenregistrée de quelqu'un qui, à tout moment de la journée, va vouloir explorer ta boulangerie.
Ouais.
Et tu auras la version, ben, si tu veux apprendre à faire du pain avec moi, mon cours est à cette heure-ci et tu pourras accéder à ce cours de partout où tu es. Et tu pourras me poser des questions en direct parce qu'à ce moment-là, je vais faire mon cours. Et si tu es au Japon, ben, peut-être que ça veut dire que tu vas devoir te réveiller très tôt ou te coucher très tard pour faire mon cours. Mais tu auras accès à mon cours en direct où je pourrai te dire en avance, achète ces ingrédients. Et tu pourras vraiment, de n'importe où dans le monde, prendre un cours en direct avec Apolline Poilane.
Alors du coup, ça veut dire...
Et tu pourras, si tu es un boulanger à Paris qui fait ça, avoir accès à, au lieu de faire un cours pour des gens locaux qui sont là ce jour-là et disponibles, à tous tes fans dans le monde entier qui vont te payer pour prendre ton cours de manière virtuelle. Donc ça te crée une nouvelle économie où, fondamentalement, si tu fais quelque chose de valeur quelque part, tu as accès à un public international qui s'intéresse à ce que tu fais et qui va te soutenir en achetant ton cours ou en achetant du contenu que tu aurais préenregistré. Donc, c'est un peu ce qu'on voit déjà avec tous ces cours sur Zoom et tout ça, mais ça reste encore assez
rudimentaire.
Donc, fondamentalement, toute cette idée des Airbnb experiences, c'est quelque chose qui, pour la plupart, peuvent être faites, pourront être faites à travers des expériences virtuelles.
Pas tout quand même, mais non, oui, il y a une partie qui...
Personne ne dit que ça va remplacer entièrement le voyage, mais ça va remplacer 80% de ce que recherchent les gens et ça va t'ouvrir, te rendre beaucoup plus de choses disponibles. Tu pourras aller visiter de manière virtuelle un endroit où peut-être que ça t'intéresse un peu d'y aller, mais pas fondamentalement pour aller dépenser quelques milliers d'euros et une semaine pour aller visiter cet endroit.
Ouais, je pense par exemple à un endroit que moi qui me plaît où je suis jamais allé, c'est Oman, tu vois, où je me dis, oh, ça doit être magnifique, mais c'est vrai que techniquement, j'ai pas vraiment besoin d'aller à Oman, ça doit être très beau, hein, mais j'ai pas de connexion spéciale à Oman, voilà. Ça doit être très très beau, mais voilà, c'est tout ce que...
Et peut-être qu'à travers cette expérience virtuelle, tu arrives à rencontrer des gens, à... Tiens, il y a quelqu'un, un boulanger à Oman... qui t'intéresse, tu vas prendre un cours avec lui, tu vas lui parler, il va te raconter tout un tas de choses, il va te dire, ah tiens, mais passe une semaine ici et tu peux être stagiaire chez moi, je vais te loger ici, enfin, tu peux créer des liens qui vont finalement te pousser à y aller ou au contraire te dire, bon, j'ai un peu vu ce que je voulais voir, c'est pas la peine d'y aller en personne.
Est-ce que tu crois, parce que moi, je l'ai abordé déjà plusieurs fois, mais cette question écologique, est-ce que tu penses que ça va avoir un impact positif, entre guillemets? Positif, non, parce qu'en fait, il faut acheter le casque qui pollue. Donc, par définition,
il n'y a pas d'impact positif.
Mais en tout cas, moins nocif que le fait que les gens voyagent, tout simplement, ouais. En fait.
Mais il y a plusieurs couches à tout ça. Le casque, à mon avis, si quelqu'un veut acheter un casque, il va acheter un casque, peu importe le voyage virtuel ou pas. Mm. Parce que ce casque, en gros, ça va être l'évolution de ton téléphone que de toute façon tu as. Donc, au lieu d'avoir tout un tas de choses, tu auras moins de technologies, mais qui vont te permettre de faire beaucoup plus de choses. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire 3 avions égale un casque, et puis voilà.
Oui, c'est ça.
Le casque va être acheté, peu importe. D'un point de vue écologique, évidemment, toutes ces technologies ont un grand... Surtout si on commence à parler d'intelligence artificielle, un grand impact énergétique. Mais je pense que la vraie question, c'est plutôt une genre de sustainability culturelle qui permet aux villes de redevenir des villes à part entière et pas des musées ou des parcs d'attractions pour des touristes. Si la majorité d'une économie d'une ville, c'est des gens qui viennent dans le centre pour aller prendre des photos et manger dans des restaurants qui finalement sont là que pour nourrir des touristes, qui vont pas leur donner vraiment une nourriture que les locaux considéraient comme étant correcte. Rester dans des Airbnb qui sont des endroits que les locaux ne peuvent pas habiter là-bas parce que on essaye
c'est
de
trop cher, hein.
De créer un endroit pour des touristes. C'est un peu redonner aux villes, aux cultures, un peu de place pour redevenir elle-même et changer un peu la donne. Où tu peux être quelqu'un qui n'a pas un magasin en plein centre et quand même avoir accès à un public international. La même chose s'est passée avec le travail. Avant le Covid, la seule manière de faire un meeting de business, c'était d'aller en personne, de rester à l'hôtel, de serrer la main à tout le monde, de rester autour d'une table de réunion. C'était un peu la seule manière de faire les choses. Maintenant, j'imagine, il y a énormément de ce genre de rendez-vous qui se font virtuellement.
Bien sûr.
Et donc, pour en revenir au disque... Aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, la seule manière de voyager, c'était de prendre le taxi, d'aller à l'aéroport, d'attendre ton avion, de rentrer sur l'avion, d'arriver, de reprendre un taxi, de prendre une chambre d'hôtel. C'était un peu que tu sois quelqu'un qui voyage constamment, qui est très impliqué dans ces cultures, ou si tu es quelqu'un qui va pour la première fois, qui va juste passer 2-3 jours là-bas, de faire dans les bus touristiques, ton expérience de voyage était la même. Que de nos jours, on peut imaginer que les expériences de voyage vont être complètement différentes. Que tu as plus d'options. Tu as l'option de le faire virtuellement, tu as l'option de le faire en personne. Et c'est ça qui va créer un peu la polarisation.
Et par rapport, je vais poser une question un peu technique, mais pas très technique, mais néanmoins technique. Parce que tu parlais de prendre des cours, etc. Ça suppose de la réalité augmentée, pas de la réalité virtuelle. Parce que si tu as un casque sur les yeux, tu peux plus voir tes mains, techniquement. À moins que ce soit en réalité augmentée, dans ce cas-là, tu vois
à
travers.
Oui, mais le casque Apple, par exemple, qui... à mon avis, est le seul casque vraiment qui nous montre un tout petit peu la direction dans laquelle vont se passer les choses, ont des caméras à l'intérieur et à l'extérieur qui te permettent de voir et ton environnement et le contenu augmenté. Mais ça, c'est des questions techniques qui, d'ici quelques années, vont faire que s'augmenter à travers tout un tas de nouvelles technologies qui vont être disponibles. C'est pas difficile à imaginer qu'on puisse avoir un casque d'ici 2-3 ans qui nous permet de et faire de la cuisine et de parler à quelqu'un.
Et il n'y a pas ce... Je sais pas si tu le sais d'ailleurs, parce que c'est une question qui n'est pas du tout dans tes cordes a priori, mais ce mal de tête que génère ce casque...
Oui, mais ça c'est encore quelque chose qui est en train d'évoluer et... Tout le monde qui a testé le casque Apple quand ils l'ont sorti il y a déjà quelques mois, on dit que la latence des écrans dans ces casques ne te donne pas a priori de mal de tête. Mais bon, après, tout ça, c'est encore des choses qui vont
changer.
changer, évoluer, ouais. se perfectionner de la même manière que les télés, les premières télés qui sont sorties. Si on les voyait aujourd'hui, on se dirait, mais comment est-ce qu'on regardait ça?
Bah, déjà, les écrans cathodiques, tu te souviens, ça prenait une place tellement grande dans le salon.
Ben oui, donc tout ça, en gros, c'est plus une spéculation sur pas ce qui est possible aujourd'hui ou demain même, mais d'ici quelques années. Mais il faut commencer à y réfléchir parce que si on ne se pose pas ce genre de questions, maintenant, on risque de se retrouver dans une situation où tout ce qu'on vient de parler est possible, mais tiens, au lieu d'être décentralisé, c'est une ou deux grosses compagnies qui vont essayer de te vendre tout ça, qui vont ramasser des milliards de dollars au lieu de bénéficier les communautés locales des endroits où tu voyages.
C'est hyper intéressant parce que c'est bizarre. Parce que quand tu m'as parlé de ça, je me suis imaginé ce film Ready Player One. Alors c'est un jeu, mais néanmoins c'est un endroit dans lequel ils sont qui est pourri, et virtuellement tu peux accéder à un monde fantastique, etc. Mais il y a vraiment, en fait moi, il y a vraiment cette question que je me pose derrière de l'écologie. Est-ce que ça serait pas juste mieux de voyager de manière hyper locale en vélo, ou même pourquoi pas en voiture, mais vraiment hyper locale plutôt que de vouloir absolument. Mais après, il y a la fermeture d'esprit. C'est là où je craque pas le truc, en fait.
Ouais. Ben, je pense pas que ce sera une solution. Je pense que ce sera tout un tas de...
myriade.
Voilà. Donc, encore une fois, il n'y a pas une solution qui va satisfaire tout le monde. Mais les gens qui veulent partir en voyage local en vélo, ils iront en vélo. Et peut-être que... tu vas aller en vélo visiter ton propre pays et tout ça, et en même temps tu iras au Bhoutan une après-midi avec ton casque, et tu parleras à certaines personnes là-bas. Peut-être que tu te commanderas un tapis bhoutanais que tu mettras chez toi parce que tu as adoré cette expérience. Donc je pense que c'est vraiment, il faut pas voir le réel et le virtuel comme étant deux mondes séparés, mais il y aura une fluidité entre les deux qui existe déjà. Enfin, quand tu ouvres Instagram et tu regardes tes amis qui ont voyagé quelque part, tu voyages virtuellement. Donc, ce n'est pas un nouveau concept de voyager virtuellement. Si tu ouvres Netflix et tu regardes Chef's Table, un chef au Pérou qui va cueillir ses légumes dans la jungle ou quoi que ce soit, tu voyages virtuellement. Donc, il n'y a rien de neuf. Tu lis un livre qui se passe dans un autre pays, tu voyages virtuellement. Donc, c'est juste ouvrir la porte vers des expériences plus immersives. Et on peut espérer, comme tout, que ça va ouvrir les yeux sur les nouvelles cultures. Enfin, toutes ces bonnes choses vont se passer. L'histoire nous montre que chaque fois que quelque chose comme ça se passe, comme l'arrivée d'Internet, tout le monde aura accès à toute l'information du monde, de son salon. Tout le monde se disait, mais on va tous devenir des intellectuels, on va tous devenir des gens super cultivés, mais en fait, c'est pas le cas. Donc, j'ai aucune illusion sur l'impact de ce voyage virtuel comme étant quelque chose qui va à la tour de Babel, qui va rendre tout le monde très cultivé, très connecté avec le monde. Bien au contraire, je pense qu'il y aura plein d'applications qui vont essayer de gamifier la chose, de te vendre encore plus de choses à travers... il y aura une économie entière d'expériences virtuelles qui vont avoir rien à faire avec le lieu. Enfin, ça va devenir un peu une poubelle comme tous les médias. Mais on peut espérer réduire ce problème de surtourisme qui est destructeur, enfin, écologiquement, mais surtout culturel, socialement. Donc, c'est vraiment ça la grande innovation, on va dire. Pareil que les magazines qui se font plus imprimer comme ils étaient avant, j'imagine, doit avoir quand même un bel impact écologique de plus avoir à produire du papier tous les mois pour des milliards de magazines qui vont finir à la poubelle.
Bien sûr, bien sûr. Tu Tu parlais d'ouvrir la porte. Le podcast s'appelle Vlante. Je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ben, je pense ouvrir la porte sur un imaginaire quand même beaucoup plus riche, où sans avoir des moyens extraordinaires, tu peux quand même, si tu es quelqu'un de curieux, aller trouver des communautés à travers le monde, avoir une relation plus réelle avec cette communauté, sans pour autant devoir faire partie d'un genre de communauté de jet-setters qui peut se permettre de prendre l'avion tous les week-ends.
Merci beaucoup, Savignon.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté Vlant. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !